Épilogue. Autrefois, j'avais une famille. Sandra et Franck ont essayé de faire au mieux pour moi. Mais Sandra était poursuivie par ses propres fantômes. Elle m'a parlé d'eux après la visite de son père, de la dernière soirée qu'elle avait passée dans la maison de son enfance, de sa grande évasion, du fait qu'elle avait emporté avec elle les coordonnées du compte occulte de son père. Pendant 30 ans, cette information lui avait servi de moyen de pression. Il voulait pas que quiconque soit au courant, alors si elle gardait son secret, lui garderait le sien. Mais il y a 1 an, l'existence de ce compte caché avait été rendue publique avec la divulgation de documents financiers détenus par un cabinet d'avocats à l'étranger. Du jour au lendemain, son père avait été balancé aux yeux de ses propres lieutenants. Et certains d'entre eux, notamment Douglas Peirce, sur ce que Sandra avait fait des décennies plus tôt en volant les coordonnées bancaires. Le père de Sandra a tenté de l'avertir qu'à son décès, elle perdrait la protection que sa présence lui offrait encore. Mais elle ne l'a pas cru. Elle a suivi sa petite idée. Le jour de la mort de son père, elle a viré les fonds sur un autre compte afin de créer une fondation en mémoire de sa mère. Une fondation qui aiderait les foyers pour femmes battues de tout le pays. L'ironie de la chose lui plaisait. 20 millions de dollars mal acquis, finalement employés au service d'une bonne cause. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que les associés de son père seraient déterminés à mettre eux-mêmes la main sur le magot. Quincy m'a expliqué ça plus tard. Comment le successeur de Martin, Doug Peirce, avait donné mission à son fils de trouver Sandra et le moyen d'accéder au fond. Comment Richie avait tué Frank et Sandra dans leur lit et tenté de me faire porter le chapeau à moi, l'enfant placé caractériel. Mais ce que Richie ne savait pas, c'était que Jack George, l'ancien bras droit de Martin, avait ses propres projets. Je l'avais même jamais rencontré. Je savais pas qui il était quand il m'a convoqué à la station-service et qu'il m'a tendu l'arme qui avait tué Richie en m'informant que je serais une nouvelle fois le pigeon. Ou que ce serait ma sœur qui paierait. Que pouvais-je faire? J'ai tiré sur la caméra de surveillance, accepté de me sacrifier pour protéger Charla. Ensuite, j'ai essayé de retrouver Jack par moi-même en sachant seulement qu'il était reparti à pied vers le nord. Quand je suis arrivée dans son lotissement et qu'un taré m'a tiré dessus comme à la foire en me hurlant de sortir de son jardin, je me suis pas rendu compte que je touchais au but. J'ai vraiment cru que c'était un cinglé maniaque de sa pelouse. Je me suis enfuie et je me suis cachée dans la maison d'en face. C'est là que l'équipe de recherche m'a retrouvée et que j'ai été obligée de prendre des mesures que je regretterai toute ma vie. Je n'ai pas menti à Quincy. Je suis vraiment pas très douée avec une carabine. J'ai fait de mon mieux pour ne pas viser le corps, pour simplement leur faire peur. Mais j'ai touché 2 agents. Tous 2 ont survécu, mais ça me fait de nouveaux cris qui me tiennent éveillée la nuit. Et un casier judiciaire plus fourni. Mais on va y venir dans 1 seconde. À partir de là, Jack a dû se dire que la voie était libre. La police me courait après, ça lui laissait tout son temps pour mener à bien la mission que Richie n'avait pas su remplir. Trouver les 20 millions. Il est donc retourné chez Frank et Sandra ce soir-là. Problème, la police y était déjà. Il a essayé de leur faire peur à coups de fusil, mais il s'est retrouvé sous mes propres balles. Alors il est passé au plan B. Retrouver Henry, qui devait certainement connaître le secret de sa mère. Sauf que Henry n'était pas revenu chez lui depuis un bon moment. Sandra n'avait pas encore eu l'occasion de lui confier quoi que ce soit. Henry a pris une balle dans le flanc, censé l'encourager à parler. Comprenant que la prochaine risquait d'être dans le genou, il a bluffé comme il a pu. Bien sûr, les 20 millions, il était au courant, et il suffisait qu'il rentre chez lui. Et c'est là qu'il m'a retrouvé. Que Jack m'a blessé à mon tour à l'épaule gauche. Et que j'ai joué mon propre coup de bluff. Une tentative de la dernière chance, à vrai dire. En forêt, cet après-midi-là, ne sachant pas quoi faire du pistolet que le vieux m'avait donné, je l'avais mis dans le sac de Charla, après en avoir retiré les balles et le percuteur. Je ne voulais pas que cette arme puisse être dangereuse pour elle. Mais je me suis aussi servi de son poids pour cacher mon secret le plus important. La clé USB de Sandra, qui contenait les coordonnées bancaires du nouveau compte. Je me disais que Charla finirait bien par la trouver et la remettre à la police. S'ils avaient les coordonnées de l'ancien comte et qu'ils comprenaient ce que Sandra avait fait 30 ans plus tôt, ça les conduirait à Jack George et aux derniers événements. Cela dit, je voulais pas qu'ils trouvent George trop rapidement. En cachant la clé plutôt qu'en la donnant ouvertement, Je me donnais le temps de le localiser en premier. Je pensais réellement ce que j'avais dit à Charla. Après ce qu'il avait fait à ma famille, il me restait une personne à tuer. Sandra savait-elle qu'on viendrait encore s'en prendre à elle après toutes ces années? Se doutait-elle que ça ne pouvait pas être si facile? Que tout se paie dans la vie ou que tout simplement, plus on fuit le passé, plus il nous rattrape? Sandra s'était servie de l'ordinateur familial pour créer sa fondation et virer l'argent. Ensuite, elle avait copié toutes les informations sur une clé USB avant de les effacer du disque dur. Elle ne voulait pas que Henry découvre quoi que ce soit avant qu'elle ait eu l'occasion de lui en parler. C'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Personnellement, je pense qu'elle avait tellement l'habitude des secrets qu'elle était incapable d'envisager autrement sa relation avec l'argent. Quand j'ai découvert leur corps au petit matin, j'ai cherché la clé USB planquée dans la reliure d'un de ses livres de cuisine. Je savais pas ce que j'en ferais. Mais si Sandra avait l'habitude d'avoir des secrets, moi j'avais l'habitude de les protéger. Plus tard, quand j'ai rencontré Charla dans les bois, je me suis rendu compte que c'était le meilleur moment pour donner cet indice. Si le pistolet et la photo ne lançaient pas les parents de Charla sur la bonne piste, la clé USB devait le faire. Plus tard, blessé, gisant devant la maison de mes parents avec Jack au-dessus de moi, prêt à finir le boulot, j'ai compris qu'il ne me restait qu'un dernier espoir. Me tourner vers la sœur que je m'étais efforcée de protéger, en espérant que ses parents se montreraient à la hauteur de leur réputation et la protégeraient à leur tour. J'ai pas pensé que Charla viendrait réellement toute seule, ni qu'elle prendrait le pistolet désormais inoffensif. Quand je lui ai dit de se souvenir de maman, c'était pour lui demander de me laisser me faire accuser. Mais Charla avait ses propres souvenirs, plus que je ne le croyais. C'était elle qui avait porté le coup fatal ce soir-là. Avant que je lui reprenne la batte et que dans mon chagrin et ma colère je ne frappe cette sœur que j'aimais autant que notre mère, je vous le jure. Sauf que notre mère... Je sais pas, il y a des relations, des formes d'amour que je ne saurais pas expliquer. Je lui aurais pas fait de mal cette nuit-là. J'aurais appelé une ambulance, je l'aurais sauvée. Et Charla et moi en avons discuté depuis. Elle se serait maquée avec le premier connard toxico venu et on se serait probablement retrouvés à la case départ. Mais c'était notre mère. Et comme je l'ai dit à Sandra, je me souviens encore de ces moments où elle était heureuse. Cette maman-là me manque. Je la regrette tous les jours. Et ma petite sœur, elle m'a sauvée, encore une fois. Elle avait une nouvelle famille et elle a mis ses membres à contribution. Elle a envoyé son super chien en mission avec la clé USB et un message à sa mère pour lui dire exactement où elle allait et l'aide dont elle aurait besoin. « En famille, il faut se faire confiance », m'a dit Charla. C'est comme ça que la cavalerie a rappliqué. Rainy Connor, Quincy, jusqu'au shérif, ils sont venus à la rescousse. « En famille, on s'entraide », m'a dit Charla. C'est pour ça qu'elle a marché en pleine nuit jusqu'à une bibliothèque déserte et qu'elle a affronté un détraqué, juste pour moi. Charla, Rainy et Quincy m'ont tous rendu visite à l'hôpital. Quincy a même contacté ma conseillère de probation, Ali. Comme c'était elle aussi qui suivait mon dossier de placement, elle tenait mon avenir judiciaire entre ses mains. Je n'ai pas assassiné Franck et Sandra. Je n'ai tué personne à la station-service. Mais c'est vrai que j'ai tiré sur une équipe lancée à mes trousses. Et que même si je ne l'ai pas fait exprès, j'ai blessé un agent des forces spéciales et une bénévole. Parmi les chefs d'inculpation, tentative de meurtre, agression et mise en danger de la vie d'autrui avec une arme à feu. Que des crimes. Devant un tribunal pour adultes, je serai passible de 15 ans de prison. Mais en tant que mineur de 17 ans, je devrais pouvoir passer devant un juge pour enfants, faire ma peine en centre fermé et ensuite être soumis à des années de probation, de travaux d'intérêt général et de suivi thérapeutique obligatoire. Curieusement, c'est Henry qui a pris ma défense. Il a écrit à Ali pour lui dire combien ses parents croyaient en moi. Franck et Sandra voulaient m'aider à remettre ma vie sur de bons rails. Voir tous ces efforts gâchés parce que j'avais été rattrapée par un drame en lien avec le passé de Sandra. Henry s'est remis le premier de sa blessure et ensuite il a passé un peu de temps avec moi dans ma chambre d'hôpital. Je lui ai dit ce que je savais de sa mère, de ce qu'elle avait fait quand elle était jeune. Aujourd'hui, il sait plus où donner de la tête en tant que seul héritier et directeur de leur fondation de 20 millions de dollars. Il m'a proposé un emploi, mais le cœur n'y était pas vraiment et nous le savions tous les deux. Nous avons essayé de nous entendre en souvenir de Sandra, mais à part ses parents, nous n'avons pas grand-chose en commun. Nous ne sommes pas une famille. Juste deux personnes qui aimaient Franck et Sandra Duval. Leur enterrement. Vous auriez dû voir le nombre de gens qui sont venus. Rien que les élèves de Frank. Il aurait été fier. Immensément fier. Ali m'a proposé de m'accueillir chez elle temporairement. Elle a fait en sorte que je sois jugée devant un tribunal pour enfants. Le procès doit avoir lieu dans quelques mois. Quincy l'a aidé. Il a témoigné par écrit du fait que je lui avais sauvé la vie. Dans le débat entre héros et zéro, ça va désormais être à un juge de trancher. En attendant, je vais à mes entretiens avec le psychologue. Je fais ma partie du boulot, comme le dit Ali. Parce que la vie est faite de choix et de conséquences, et qu'il faut que j'apprenne à faire de meilleurs choix si je veux obtenir de meilleures conséquences. J'ai envie d'entrer dans une école de cuisine. Je veux faire connaître le poulet à la parmesane de Sandra au monde entier parce que quand je suis en cuisine, je la sens à côté de moi et que ça me fait du bien. J'ai envie d'aider d'autres jeunes en difficulté à s'en sortir. Si j'avais mon propre restaurant, je pourrais leur proposer des boulots de serveur, de plongeur. Je pourrais leur transmettre mon savoir parce que quand je tends la main à quelqu'un, je sens Franck à côté de moi et que ça me fait du bien. J'ai envie de réapprendre à connaître ma sœur, de passer du temps avec elle et avec sa famille. Parce que quand elle me sourit, je me souviens plus du dernier soir. Je me souviens des Cheerios et de Clifford le gros chien rouge. Je me sens fier et fort, un vrai grand frère, et ça me fait du bien. Je veux faire mieux. Je veux être meilleur. Autrefois, j'avais une famille. Et avec un peu de travail et d'effort, un jour, j'aurai une famille. Ma famille.